Nous avons constitué une masse de manœuvres où se mêlent nos soldats et les soldats britanniques et qui, par sa mobilité, peut barrer partout la route à l'invasion.
Bonjour, dans le fil de l'histoire aujourd'hui, quatrième épisode consacré à l'entrée de la France dans la Seconde Guerre mondiale, 1939-1940. La drôle de guerre fut-elle vraiment si drôle? Toujours en compagnie de l'historien Fabrice Grenard. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment les soldats français sont passés de la combativité à un sentiment de plus en plus net, d'ennui et d'incompréhension pour cette guerre qui ne vient pas.
La défense passive entre en France dans une ère de réalisation. Et les pouvoirs publics ont pris les mesures nécessaires pour que non seulement la protection individuelle, mais la protection collective des populations civiles se trouve assurée, et cela en multipliant les abris. Dans ce but, le renforcement des caves est au premier plan des préoccupations actuelles pour parer à la puissance destructive des bombes explosives et surtout à leur effet de souffle.
Au début de la guerre, les Français de l'arrière semblaient résignés mais confiants face à l'Allemagne. Mais depuis octobre, l'ambiance a changé. Maintenant que la Pologne est vaincue, les civils redoutent de plus en plus une attaque allemande, surtout dans les régions frontalières du nord et de l'est, dont les populations sont évacuées vers l'ouest. Tandis qu'à Paris, on se souvient avec anxiété des bombardements de 1914. Dans les grandes villes, la défense passive organise la protection des populations en cas d'attaque. On construit des abris souterrains, des affiches sont placardées, donnant la marche à suivre en cas d'alerte. L'extinction des feux, des lumières, occulter ses fenêtres avec du sparadrap, savoir utiliser un masque à gaz en cas d'attaque chimique, une éventualité qui suscite une véritable angoisse. Dès le hurlement de la sirène, les habitants sont priés de fermer chez eux le gaz et l'électricité et de descendre au plus vite aux abris. Autre conséquence de la guerre, dans l'agriculture comme dans l'industrie, pour assurer la continuité de la production et éviter une paralysie de l'économie, les femmes doivent remplacer les hommes. Et, éternel drame de la guerre, les séparations. L'angoisse de ne peut-être jamais revoir le mari, le fils ou l'amant parti sur le front. Mais bientôt, les Français de l'arrière, eux aussi, vont s'installer dans une nouvelle forme de guerre, la drôle de guerre.
France Inter, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Puisque finalement il y a peu de combats ou de bombardements, beaucoup de Français à l'arrière retrouvent leurs habitudes d'avant-guerre. La vie reprend. Les citadins qui avaient fui à la campagne rentrent chez eux. Le métro, les taxis, les spectacles reprennent. À l'arrière, la drôle de guerre, à défaut d'être drôle, n'est pas désagréable. Mais quand arrive l'hiver, un hiver particulièrement rigoureux, les Français sont soudain ramenés à la dure réalité de la guerre. Pénuries alimentaires, pénuries de bois et de charbon pour se chauffer, augmentation des prix qui suscite de criantes inégalités, des difficultés qui engendrent un mécontentement et de vives tensions sociales. Sur le front, les soldats ont froid et le premier hiver de guerre 1939-1940 provoque une véritable crise de confiance. Plus que jamais, les hommes expriment leurs doutes sur le sens de cette drôle de guerre. Fabrice Grenard, première chose, on le voit bien, cette période de la drôle de guerre n'est pas uniforme. La situation sur le front et à l'arrière évolue.
Alors d'abord, on a un premier moment, hein, véritablement le mois de septembre 1939, la fin de l'été, les premières semaines de la guerre, qui bouleverse véritablement le quotidien des civils. Même si l'expression drôle de guerre va ensuite s'imposer, il faut vraiment insister sur le fait que le pays est bien en guerre. On a complètement oublié, par exemple, qu'au cours des premières journées de septembre, on a déjà un premier exode qui se développe. Des dizaines de milliers de Parisiens qui quittent la capitale parce qu'ils craignent des bombardements.
Ouais.
Vous avez aussi des départs qui, eux, ont été prévus en amont, sont plus organisés. Les enfants des écoles parisiennes, on va les envoyer dans le centre, le sud-ouest de la France, là aussi, parce qu'on craint des bombardements. Ils reviendront ensuite assez rapidement. Ceux qui ne reviendront pas, c'est les Alsaciens, les Lorrains, près de 400 000 personnes qui, eux, sont évacués des régions frontalières vers le Limousin, le sud-ouest, mais qui vont connaître un véritable déracinement et qui connaissent en réalité une épreuve très dure. Voilà. Et puis, le fait d'être en guerre, eh bien, ce sont effectivement des restrictions qui apparaissent, le couvre-feu qui se met en place, etc. À partir du moment où aucune bataille ne se développe, aucune offensive n'éclate sur le front de l'Ouest, tout cela va se desserrer un petit peu au cours du mois d'octobre et en novembre 40. Et
effectivement, quand il y a des alertes, par exemple, les gens ne vont pas très très vite à la cave.
Autant la première alerte à Paris, qui a lieu début septembre, est très suivie. Et puis ensuite, petit à petit, effectivement, les alertes deviennent beaucoup moins suivies. Et puis l'étau se desserre un petit peu partout. On va réouvrir les salles de spectacle, le couvre-feu se fait plus léger, etc. Mais avec l'arrivée de l'hiver, là, les difficultés vont se refaire assez dures, notamment sur le plan alimentaire. Les matières grasses, l'huile, le sucre, le chocolat, tout ça, donc ça commence à manquer dans les assiettes. Et puis, comme l'armée est prioritaire aussi en termes de ravitaillement, on a une première crise de ravitaillement qui se développe au cours de l'hiver 39-40.
Est-ce que cette crise de confiance se répercute sur la politique? Parce que l'unité nationale est importante en cas de guerre, c'est ce qu'on appelle l'union nationale. Il y a un facteur qui joue contre cette unité pendant cette période de la drôle de guerre, c'est le Parti communiste. Après le pacte germano-soviétique qui a donc été signé fin août 1939, les communistes français ont été sommés par Moscou de défendre la ligne de Staline, c'est-à-dire donc d'opérer un virage à 90 degrés, en dénonçant la guerre française contre Hitler. Le Parti communiste est devenu illégal en septembre 1939. Les députés communistes qui n'ont pas dénoncé le pacte sont arrêtés et emprisonnés. Le 1er décembre 1939, le président du Conseil, Édouard Daladier, prononce un discours très sévère à l'égard des chefs communistes qui, dit-il, ont trahi.
Mais dès les premiers jours de septembre, alors que tous vous vous leviez pour défendre la patrie, alors que les communistes du peuple rejoignaient leur régiment et allaient faire front au danger, les chefs ont brusquement renié leurs paroles et sur l'ordre d'un gouvernement étranger se sont mis à la disposition de l'Allemagne.
Cette question de l'interdiction du Parti communiste, elle est vraiment très importante. Parce qu'elle va en fait empêcher de pouvoir recréer les conditions d'une véritable union sacrée, comme ça avait été le cas au cours de l'été 1914. Dans un premier temps, les communistes français vont essayer de concilier le soutien à l'URSS avec un discours patriotique, la défense de la patrie. D'ailleurs, les communistes vont voter les crédits de guerre, début septembre 39, et le parti appelle les militants communistes à faire leur devoir. Tout va basculer à la mi-septembre 39, lorsqu'on apprend en fait que l'URSS a attaqué la Pologne. Ce qui fait que ça met l'URSS dans le camp des ennemis de la France. Et à partir de là, les communistes sont obligés de choisir leur camp, d'où la décision du président du Conseil, Édouard Daladier, d'interdire le Parti communiste fin septembre. Mais du coup, le Parti communiste interdit va se reconstituer dans la clandestinité avec des mots d'ordre qui consistent à s'aligner sur la ligne fixée par l'international communiste, par Moscou, et qui consistent à dénoncer la poursuite d'une guerre présentée comme impérialiste qui servirait d'abord les intérêts de la bourgeoisie et à laquelle les classes prolétaires ne devraient pas participer. Et forcément, cette interdiction du parti, va fragiliser un petit peu les conditions d'une union sacrée.
Et l'état-major français, est-ce que sa stratégie évolue? Il a bien vu l'attaque éclair qui a été menée par les Allemands en Pologne. Est-ce qu'il en tient compte? Est-ce qu'il se dit peut-être les Allemands vont faire pareil pour nous?
En fait, non. Du côté du généralissime Gamelin, on pense que si cette stratégie a pu fonctionner en Pologne pour les Allemands, elle pourra pas fonctionner en France parce que l'armée française est plus forte, puissante que l'armée polonaise et qu'elle pourra, en cas d'offensive, tenir le choc comme elle l'avait fait lors de la bataille de la Marne en 14 ou à Verdun en 1916. Le général de Gaulle, lui, a rédigé une note sur qu'il diffuse auprès des élites politiques et militaires. On est en décembre 1939, où il alerte vraiment sur l'importance de l'arme mécanique. Et il explique que seule l'arme mécanique peut repousser l'arme mécanique. Mais en même temps, il ne va pas jusqu'à remettre totalement en cause la stratégie française. Simplement, lui, il considère que si contre-offensive il doit y avoir, cette contre-offensive du côté français devra être menée par des chars.
Carrément des grandes unités blindées.
Des grandes unités blindées.
Pas des chars éparpillés un peu partout.
Et surtout pas par des unités d'infanterie. Mais il parle bien de contre-offensive. C'est-à-dire qu'il ne prend pas lui non plus l'idée d'une offensive mécanisée en direction de l'Allemagne, comme les Allemands l'amèneront en mai 40 à l'égard de la France.
Merci Fabrice Grenard. On continue cette discussion sur la drôle de guerre dans le prochain épisode. Le 10 mai 1940, après 8 mois de drôle de guerre, l'offensive allemande va brutalement sortir la France de sa torpeur.